tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, La transmission dans tous ses états, une série de Caroline Eliachev réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a les aînés qui regardent les plus jeunes avec plus ou moins de bienveillance. Des noms qu'on se transmet à chaque génération et les histoires et les biens qui vont avec. Et puis il y a aussi des habitudes, des usages, des savoirs et même des privilèges qu'on se transmet quand on a la possibilité de le faire et l'envie de s'en emparer. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas de l'héritage et ceux qui n'hériteront que d'eux-mêmes. Alors il faut peut-être questionner la transmission et se demander aussi si ce qu'on a à transmettre est forcément si désirable. Et pour commencer, il faut retourner à l'école. Alors d'abord les personnages, de jeunes adultes, hors d'haleine, des réfugiés qui ont marché et couru pendant des kilomètres, un âne, un jésuite du XVIe siècle, des professeurs bénévoles de français, de théâtre, d'histoire ou de poésie, des leçons de savoir-vivre, des adolescents qui ont eu 1000 vies et dont on a tout à apprendre, et une directrice qui porte son projet. Ensuite le décor, des rires, des téléphones portables, des poèmes comme des autobiographies, des parcs dans la ville, une France rêvée, la laïcité en bandoulière, le désir éperdu de se faire accepter, des fleurs et une école un peu hors norme. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Paris dans le 7e arrondissement et on va faire du sport.
Doucement, doucement, à pied à gauche. Et moi, je fais des loupes, tiens.
On va courir, là, on va partir sur une petite heure.
Allez, vas-y. En haut, bien bas là-bas.
On est sur un parcours à 12 km.
En haut. Pour le chauffement, pour le tirement, il y a 10 minutes, 15 minutes d'histoire pour commencer ici. Après, nous sommes partis. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en cette nouvelle vie. Mais c'est court, il y a tous les problèmes, ils sont perdus dans sa tête. On oublie. Tous les problèmes, ils sont oubliés. Oui, dans ce court.
On va faire aujourd'hui le parcours habituel. Ceci pour que aujourd'hui, on va le faire tous ensemble. D'accord ? On reste groupés. D'accord ? L'idée, c'est course de groupe. Ceux qui traînent un peu avec Farid Bolt. Mais l'idée, c'est de faire le parcours habituel tous ensemble.
L'école Pierre Claver, un laboratoire de savoir-vivre. Caroline Eliachev, Manouchak Fachaï.
Le sport a été introduit dès le début de Pierre Claver. Il a été introduit assez rapidement. Ces personnes qui, après tout, beaucoup d'entre elles ont marché jusqu'en France.
Mariam, Kaboul, Afghanistan.
Beaucoup d'entre elles ont beaucoup couru pour échapper, pour aller plus vite, pour attraper le train.
Milad, Iran.
Courir et marcher sont une seconde nature pour un réfugié.
Pardon, Afghanistan.
Un demandeur d'asile. Et donc la course à pied s'est imposée très rapidement comme étant la discipline de Pierre Claver par excellence.
À la fin, quoi qu'il arrive, on se retrouve sur les quais de Seine à côté de la passerelle qui mène aux Tuileries pour les étirements. D'accord ?
Je suis là, moi.
Bon, allez, c'est parti.
Ouais.
J'ai tes chaussures. Je te les donne après. Ok ? Hein ? On court tous ensemble.
L'école Pierre Claver a été fondée à Paris en octobre 2008 pour accueillir des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile. Quel rapport, me direz-vous, avec la course à pied et la transmission ? Transmettre implique l'idée de faire passer quelque chose au-delà de soi, qui ne vous appartient pas, par la présence humaine et le langage. Ce quelque chose, ce sont des connaissances, des valeurs, des questions, des témoignages, mais aussi des émotions et des passions. Transmettre implique aussi de recevoir et de s'en trouver modifié. À Pierre Claver, la transmission est au cœur du vivre ensemble entre adultes de cultures différentes, non pour effacer les différences, mais pour les faire vivre. De dimension modeste, puisqu'elle accueille simultanément une centaine de personnes pendant environ 2 ans, cette école est une sorte de laboratoire de transmission où chacun témoigne ce dont il vit devant les autres et pour eux, y compris quand il court.
Ok. Rolac, on se retrouve au Quai de Seine.
Je me souviens qu'à l'époque, lorsque mes amis me demandaient ce que je faisais et que je leur disais « je m'occupe de réfugiés », ils ne savaient pas ce que c'était qu'un réfugié du tout. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le droit d'asile, qui étaient ces réfugiés, d'où ils venaient, à quoi ils ressemblaient, est-ce que la France pouvait leur offrir. Ils ne savaient rien, Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la culture générale de n'importe quel citoyen.
Ayam, directrice de l'école Pierre Claver.
Et on s'est dit une chose très simple, c'est dans ce temps où ils attendent l'asile, pourquoi ne pas déjà les accueillir, dans un sens très fort du verbe accueillir, et leur faire découvrir ce pays qui, peut-être, dans le cas où ils auraient l'asile, deviendrait le leur. Nous ne sommes pas militants, c'est-à-dire notre symbole est l'âne, et nous nous conduisons comme des ânes, c'est-à-dire avec fidélité à nos principes, nous faisons preuve de beaucoup d'endurance, mais nous ne militons pas.
Pourquoi un âne ? Parce que Pierre Claver écrivait à son propos, je le cite, « Dès que je ne fais pas ce que fait l'âne, cela ne me réussit pas. Qu'on dise du mal de lui, qu'on ne lui donne pas à manger, qu'on le charge au point de tomber à terre, qu'on le maltraite, toujours il se tait. Il est endurant, étant âne. C'est ainsi que doit être le serviteur de Dieu. » Fin de citation. Mais au fait, qui est Pierre Claver ?
Le côté amusant, c'est que personne ne sait qui c'est.
François.
Personne ne sait qui c'est. Donc.
Enseignant en histoire.
Pierre Claver a deux identités. C'est d'abord un jésuite espagnol du XVIe siècle qui avait commencé sa vie en étant régent de collège dans un collège de jésuites. Et puis progressivement, il a trouvé que ce n'était pas tout à fait assez. Et il s'est embarqué sur un bateau à destination de Cartagène des Indes, en Colombie, où il soignait gratuitement les personnes déplacées par force de son époque, sur les pontons des bateaux négriers à Cartagène des Indes. Il a pour nous aussi une autre identité, a-religieuse, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens à Pierre Claver aiment la personne sans considération de sa confession d'origine, simplement parce qu'il donne l'exemple d'une espèce d'exil partagé avec les gens et d'une très grande générosité.
Il est en A1, vous savez, ou pas ? C'est un débutant ?
Non, c'est pas
un... Vous n'êtes pas un débutant ? En A2 ? Vous êtes en quelle classe, vous-même ?
Je pense moi, à A2.
D'accord. Alors, le problème, c'est que tous les deux, vous avez cours à 14h.
D'accord.
Lui, avec une personne qui s'appelle Françoise, et vous, avec Eliénor.
Sans hiérarchie, d'accord, toutes les activités Françoise, proposées Eliénor, à Pierre Claver sont des occasions de transmission. On y danse.
5, 6, 7...
On fait du tricot.
On peut travailler.
Oui, pendant les vacances.
Bah, c'est bien parce qu'il commence à faire froid.
Mais ça, c'est inouï. Hein.
Oui.
Ça
on va. Fait du théâtre.
Choisis un sentiment.
Content.
Si tu es timide, mais que tu es fatigué, tu ne vas pas le jouer de la même façon.
On apprend la poésie.
Je vous les écris ?
Ah oui.
Hein ? Juste ça. Et puis après, on va passer au texte de Victor Hugo. Et je vais vous raconter pourquoi Victor Hugo.
Attends, laisse-nous, on va...
On fait de la musique.
On va t'inspirer, tu vas fermer les yeux, écouter la beauté de ce qu'on va faire. Et la musique va venir à toi.
Mais d'abord, on apprend le français.
La poésie, c'est ce qui permet d'entrer très rapidement dans la langue, bien entendu, mais dans autre chose que
vouloir,
la
langue. Vouloir, c'est ça, pouvoir,
entrer dans quoi ?
Savoir. C'est-à-dire les verbes irréguliers, difficiles, un peu compliqués.
Et pourtant,
nous sommes une école d'intégration et de découverte mutuelle et de compréhension mutuelle, et pas une école de français. Et la compréhension mutuelle passe par l'agir ensemble, le faire ensemble.
Mais parce que, vas-y. Non, mais c'est bien, vas-y.
Présent. Au revoir,
tu sais, je suis là.
Toi,
à cause de mes articles.
Beaucoup de censure, j'en avais marre.
Pour défendre ma famille, j'ai quitté mon pays avec mes enfants.
Je travaillais pour l'armée américaine. Et Taliban me cherchait pour moi tuer.
En fait, problème de religion.
Je rêvais et je rêve encore pour mon enfant de vivre dans un pays démocratique. Mais dans mon pays, c'est un régime totalitaire.
Je cherche un endroit pour vivre.
Khaloud, Damas, Syrie.
Milad, Iran.
Hassan, Alep, Syrie.
Abdulrahman, Damas, Syrie.
Mariam, Kaboul, Afghanistan.
Saïd, Baghlan, Afghanistan.
Souma, Moulu Bazar, Bangladesh.
Khalil, Baghlan, Afghanistan.
Diala, Syrie.
Arrivant du monde entier, c'est au cours de théâtre avec Sophie qu'ils ont écrit et mis en scène leur histoire. Mais une fois à Paris, comment ont-ils fait pour arriver à Pierre Claver ?
En fait, c'est là, j'ai rencontré par hasard l'un des Afghans,
Karaber,
qui était déjà à l'école. Khouloud. Moi, j'étais à la recherche de l'école. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir l'école où tu suis les cours presque tous les jours.
En fait, j'étais un sportif de haut niveau. Je faisais un peu de sport quand je suis arrivé.
Bhopal.
À Gare de l'Est, à droite, à gauche, je courais. Et j'ai demandé aux gens, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me trouver un endroit pour qu'ils m'inscrivent dans un club de sport. Mais moi, j'avais deux objectifs. Un, c'était d'apprendre le français. Et le deuxième, je devais faire le sport. Parce que le sport, ça me donne l'énergie pour vivre.
Les gens qui étaient à Gare de l'Est, on m'a dit qu'il existe une école qui s'appelle... Ils ne savaient pas le nom de l'association Pierre Clavert.
Raman.
Mais je suis allé avec eux et il y avait une sœur qui s'appelait sœur Marguerite. Et je suis allé et je dis, j'ai appris que bonjour. Je dis bonjour, je suis... Après, je ne sais pas, j'ai expliqué avec mes mains que comment je suis venu avec les signes. Je ne savais pas parler français.
Ils ont...
Alors, il ne faut pas oublier la liaison.
Et c'est aussi par les hasards de la vie que les enseignants rencontrent l'association.
Ils ont eu. C'est très vite pour les hommes.
Non, c'est bien de penser.
Françoise.
Alors, par un concours de circonstances, parce que ces cours, au début, c'était Gare de Lyon. Et Gare de Lyon, c'est en face de la société où je travaillais. Donc, une de mes collègues m'a demandé si je voulais donner des cours de français. Je venais de prendre ma retraite. Donc je dis pourquoi pas.
J'ai connu Pierre Clavert par un ami commun, Kayam, qui est l'âme de cette maison. Cet ami tient une boutique de vin.
Un dimanche après-midi où il pleuvait, Fabienne. Où j'étais devant la radio et devant mon ordinateur et où j'ai entendu parler de l'association. Donc je suis venue dès le lendemain, dès le lundi, et puis on m'a proposé de m'inscrire dès le mardi.
Tenzin Tingri, Tipi.
Milad Hamedan, Iran.
Zayat du Irak.
Yalal Idara, Syrie.
Abdallah, je viens de Libye.
Fariba, du Iran.
Abba Khalid, Syrie.
Mastouba, je viens d'Afghanistan.
Rada, je suis Syrie.
Est-ce que tu peux lui demander au moins ce qu'on lui a dit quand on lui a dit qu'il était accepté, il était dans quelle classe? Je pense qu'il est dans la classe d'Odile, non? Non, nous l'avons appelé, nous.
Le recrutement des nouveaux élèves, qui a lieu deux fois par an, est un moment difficile.
Et on lui a dit, viens à quelle heure, quel jour?
Pour les candidats, qui font la queue par centaines, sans savoir du tout où ils mettent les pieds.
Là, il faut demander à Larman qu'est-ce qu'il veut faire.
Pour la vingtaine de personnes qui les accueillent, à savoir les enseignants et les anciens élèves, particulièrement utile parce qu'ils parlent les langues des réfugiés, Pachtoun, Dari, Somalien, Géorgien, Arabe, Tibétain.
D'accord, donc c'est, tu vois, l'homme inquiet en rouge, le mari de Fabria,
oui.
Et Taslim qui n'était pas là hier,
ça fait trois.
Il ne parle pas même quand il parle arabe, je ne comprends pas le Somali.
Ouais.
Tant mieux, il parle français.
On a son nom.
Alors que les futurs élèves ont souvent une attitude assez passive, on leur explique que Pierre Clavert n'est pas qu'une école de français, car ici, on ne prend pas sans donner. Concrètement, ça veut dire venir tous les jours et participer à un certain nombre d'activités qu'ils vont choisir et s'engager à suivre.
De mettre monsieur et madame dans la même classe.
Plus tard, s'ils le souhaitent, mais ils ne le savent pas encore, ils donneront bien davantage.
Merci.
Et n'hésite pas, des gens qui sont, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui tous les matins vont tenter leur fortune.
Demain,
je pourrai aider au deal parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes là qui ne sont pas inscrites. D'accord.
À tout à l'heure.
Ma cotiche est même. Je pense que tu vas salder. Parler un peu français avec Amanda.
Une fois le recrutement terminé, les cours peuvent commencer, non sans avoir été au préalable accueilli par Ayam.
Alors, comme c'est le début de l'année, je fais une petite introduction. Dans cette classe très importante, qui est la classe de français avancé, avec Eleanor, qui est notre professeur depuis plusieurs années. Certains d'entre vous viennent d'arriver à l'école Pierre Clavert. J'espère que vous y serez heureux et heureuses. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vais vous dire en quelques mots ce que nous sommes ici, dans l'association. Vous allez le découvrir, mais je voudrais que vous ne vous trompiez pas dans les premiers temps. D'accord ? On vous a dit deux choses. On vous a dit c'est une école de français. C'est faux. Elle n'est pas une école de français dans le sens où nous ne croyons pas qu'apprendre la langue suffise à vivre en France. Et il n'est pas du tout d'ailleurs nécessaire de venir l'apprendre dans une classe. Vous pouvez l'apprendre dans la rue, dans les bistrots, dans les salles de sport. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe et qui parlent le français nettement mieux que nos étudiants. C'est une école qui est une école réciproque où nous apprenons de vous et vous apprenez de nous. Donc on apprend ensemble. Beaucoup de choses sur la France, qui est un pays où vous vous trouvez aujourd'hui et où vous allez vivre et travailler et étudier dans l'avenir. Et comme tous les pays, il a besoin d'être connu pour être aimé. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est un endroit où, le plus rapidement possible, vous êtes entouré de gens qui sont prêts à partager avec vous ces choses dont vous avez besoin. Notre pari à nous, c'est qu'en 2 ans, vous savez un maximum de choses qui vous permettent d'être heureux en France. Être heureux en France, c'est difficile, puisque vous êtes ici, en fait, contre votre gré. Et donc, vous êtes forcément malheureux en France. Nous essayons de faire que vous soyez le moins malheureux possible. Mais le moins malheureux, c'est déjà une ambition suffisante. On vous demande énormément, puisque, comme vous savez, cette école ne marche qu'avec des bénévoles. Elles sont là pour le plaisir d'être là. J'espère que vous êtes aussi là pour le plaisir d'être là. Et donc, en permanence, vous êtes utile à l'école. Vous êtes utile parce que, grâce à vous, l'école existe. Vous êtes utile parce que, grâce aux activités que vous faites, la danse, le dessin, le théâtre, la musique, puisqu'on a des musiciens ici, nous invitons des amis français qui vous découvrent. Qui découvre ce que c'est qu'un Afghan, ce que c'est qu'un Syrien, une Syrienne, un Iranien, qui ne ressemble pas toujours aux réfugiés que l'on voit à la télévision. Ils vous découvrent sous un autre visage et ils peuvent vous aimer. Et pour ça, vous êtes utile pour vous-même, pour l'école et pour tous les réfugiés qui viendront après vous en France.
En fait, l'idée, c'est que quand vous arrivez en France la première fois, c'est que il y a toujours ces frontières entre toi et la société française, entre toi et la France. Donc, je voulais l'ambiance où ces frontières n'existent plus.
Carabère.
Franchir ces frontières qui existaient. Donc, cette ambiance avec les profs français ou françaises, avec l'ambiance française, avec les cours d'histoire, avec l'actualité, avec tout. Moi, j'avais l'impression que j'avais cette ambiance qui mettra plus tard pour l'intégration.
Quand je suis arrivé, je ne parlais même pas un mot français. Des fois, quand j'entendais les gens qui disaient bonjour, je disais, mais ça veut dire quoi, bonjour? Tout le monde utilise bonjour, bonjour. Mais non.
Popal.
Non, je ne parlais même pas un mot.
Et maintenant, vous êtes français?
Je suis français, oui, maintenant.
Les anciens élèves de Pierre Claver y reviennent fréquemment pour aider, à moins qu'ils n'aident à l'extérieur de l'école. Rahman.
En fait, j'ai décidé ça, je crois que je le proposais à Yann. Moi, je me trouvais très seul à l'époque. Il n'y avait personne qui parle français, qui pouvait m'expliquer. En fait, je n'étais jamais à l'école dans mon pays d'origine. C'était très dur. Je ne savais pas même comment je pouvais travailler pour avancer, pour apprendre le français. Et là, je pensais à l'époque, je dis non, je peux renseigner, je peux aider les gens qui étaient comme moi, qui est comme moi, qu'ils apprennent et ils avancent au début.
Donc c'est vous qui avez proposé à Ayam de...
Oui, au début, moi, j'ai proposé, voilà. Je trouvais qu'il y avait plein d'Afghans, le jour d'inscription, souvent je suis là avec Ayam, quand je voyais qu'il y a plein de gens qui n'étaient jamais à l'école, qui étaient comme moi. Après, j'ai pensé à ma situation, j'ai dit... Là, je peux faire quelque chose et je vais le faire. J'enseigne un peu les alphabets. Là, je donne du cours. Là, c'est 2 fois par semaine, juste au début, les alphabets, alphabétisation. Et Pierre Claver est ma famille, là. Je ne veux pas la quitter. Voilà.
Je pense que j'ai aidé dans le sens où je voulais être un exemple à suivre, en quelque sorte. Des fois, j'avais cette ambition.
Carabert.
Un peu exagéré. Donc voilà, si quelqu'un fait quelque chose sur mon exemple, parce que j'ai été considéré quand même que quelqu'un qui a appris le français, qui jouait le théâtre, qui était très actif à l'école, au moins ça me fera plaisir, évidemment. J'aide les personnes qui arrivent maintenant en France, les migrants actuels. Je travaille avec eux. Moi, je fais toujours attention à chaque geste, à chaque mot utilisé avec les migrants qui arrivent en France pour ne pas donner une image négative de la France. Moi, j'ai envie de faire quelque chose vis-à-vis des migrants qui arrivent en France. Que déjà, les profs de Pierre Claver ont fait pour moi. Parce que vous savez très bien que nous, quand on arrive en France, qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas grandi non plus, chaque phrase, chaque mot, chaque regard est très important. Ça va nous rapprocher, par exemple, votre phrase ou votre regard, ou ça va m'éloigner de la France. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai fait très attention quand je n'ai pas du tout envie que quelqu'un est loin de la France. Donc, j'avais cette impression ici à Pierre Claver, c'est pourquoi j'aime trop, que c'était ambiance créée juste pour ça, pour que tu entres, tu fais entrer dans ces pays, que tu fais partir de cette société. J'ai envie de faire les gestes aussi sensibles, aussi tendres, aussi accueillants comme les profs de Pierre Claver.
Vous laissez la place.
Bonjour.
À demain, monsieur.
Et c'est pas loin, non? C'est où?
École de militaire.
Militaire. Ils acceptent que tu rentres avec coiffé comme ça? Avec les cheveux comme ça?
Il y a plein de...
Ouais. Allez, Mouchtaba. Ton téléphone est éteint, Mouchtaba?
Oui, oui.
Bien. Ça, c'est le Mouchtaba, le rebelle. Le rebel. C'est en fait typiquement le Claver.
Il n'est pas dans les rangs,
mais on l'adore. Ça va
construire.
Tu sais, quand il arrive avec son pantalon à pince, tu vois, il a toujours un col roulé, un peu vieux, un peu souple, comme ça, tu vois. Le cheveu en bataille. Il y a un film français que tu dois voir qui s'appelle Les 400 coups. Et dans ce film, tu verras Mouchtaba.
Allez.
Bonjour, vous allez bien et vous? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir.
Tu viens pour un tutorat? Ouais, d'accord.
Des personnes très différentes ont frappé à la porte de Pierre Claver en proposant leur aide.
Nous avons une armée, une véritable armée des ombres, de personnes volontaires qui viennent tous les jours de la semaine.
Des lycéens, des retraités, des gens de toute nationalité, de tout métier, ayant un peu de temps et le désir de donner.
Ma prof de littérature au lycée qui nous en a parlé parce qu'elle donne aussi des tutorats.
Manon, tutrice.
Et du coup, on a été quelques élèves aussi à venir.
Quelle structure leur proposer?
En face de prof. La première part.
Attends,
tu as compris?
Je écris là-bas. Peut-être.
Ah non, il n'y a pas de peut-être. Tu attends.
Eh bien, chaque jour de la semaine, entre 17h30 et 19h, ils peuvent noter leur nom dans un agenda et un élève mettra son nom à côté.
D'accord. Donc vous prendrez une ou deux personnes en vis-à-vis, pour conversation française, etc. Est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui parle déjà un peu français et dont vous améliorer la pratique, ou bien quelqu'un que vous allez déverrouiller à partir du silence?
Je peux tout faire.
C'est vrai?
Oui, oui, c'est vrai. J'ai vécu à l'étranger.
Que vous allez, ce que vous allez voir, tous, c'est quelqu'un qui ne parle pas français. Eh bien, il parle quand même.
Mm-hmm.
Voilà.
Incroyable.
Et donc, ça n'est pas quelqu'un de muet, ce n'est pas une statue qui va se mettre à parler. Il a tellement envie de communiquer que vous allez très vite, pendant une heure et demie, communiquer. C'est fou, quoi. Et n'hésitez pas à parler anglais. Mais c'est vrai. Alors, si vous ne parlez pas anglais, parlez avec les mains. Mais en tout cas, l'important. Donc, mercredi, il n'y a personne? Alors, vous deux, vous êtes...
Victoria et Louise.
Victor, d'accord. Jeudi, il y a du monde ou pas?
Oui.
Alors?
Nous trois.
Okay. Aussi jeudi?
Oui.
Non, mais c'est un jour formidable, le jeudi.
Oui.
Avec des préférences?
Ces vis-à-vis singuliers ne sont pas pour autant privés.
Ça fait combien de temps que vous êtes en France ?
Dans la salle de classe bondée, l'ambiance est joyeuse, studieuse et fort animée.
C'est la Pierre Claver aussi ou...
C'est la première fois. Bonjour madame, le prêt nous tranche bien fine de Japon de Bayonne.
T'as travaillé en Afghanistan ?
Nous c'est vraiment difficile dans les bacs scientifiques.
Nous avons deux langues en Afghanistan, Dari et Pashto.
Souvent, les étrangers disent que les Français mangent des grenouilles, les frogs, et c'est bizarre. Oui.
C'est tes devoirs, ça t'aidera. C'est pas un ordre, mais c'est un conseil pour comment ça vous aidera plus tard.
Remoulade.
Sauce.
Sauce.
Et l'allemand.
Il a écrit comment?
Il est petit bien.
Oui. Ah, il dit bien.
Oui. Vous connaissiez en Syrie aussi?
Je vais prendre salade alsacienne. Je ne sais pas, alsacienne.
C'est une sorte de salade, c'est l'Alsace, c'est un endroit de la France.
Vous fatiguez trop sur les fautes que vous faites. Vous êtes vraiment très, très concentré, vous voulez absolument pas faire de fautes. C'est pas grave. Vous allez vous améliorer, mais là, comme ça, vous pouvez vivre normalement. Tout le monde vous comprend.
La salade de Paris, la salade parisienne. Paris. We need a place to live this harmony. If there's a name for this country, I do believe in you.
Un peu, non.
Ok, très bien.
Ici à l'école,
on
apprend à écrire.
Ok, écrit bien. Pas
de
problème.
Ah,
deux, allez,
va. Un, deux, alpha.
C'est parfois seulement en quittant Pierre Claver que les élèves découvrent que leur niveau d'écrit est insuffisant pour progresser professionnellement, car ils viennent souvent de pays où l'écrit n'a pas le même pouvoir discriminant. Le français écrit, Michel en a fait sa spécialité.
Le soir, elle donne des cours à des anciens élèves qui travaillent déjà, qui, à Pierre Claver, n'ont pas atteint à l'écrit un niveau suffisant. Et donc, elle les récupère et elle leur apprend, mais patiemment, à écrire bien. Mais il faut la voir travailler. C'est une leçon. Moi, je l'ai vue travailler après Charlie Hebdo, où elle était debout à côté du tableau avec toute sa classe, ils étaient 6 ou 7 à l'époque. Elle a pris un stylo et elle leur a dit au lendemain de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Et elle a pris son stylo, elle ne disait rien. Et eux, ils étaient évidemment très émus. Et elle leur a fait faire des phrases très simples, mais chaque fois, ils disaient, mais alors, par exemple, des hommes ont tiré sur la foule, etc. Alors, des hommes, comment étaient ces hommes ? Ils disaient, méchants. Elle disait, oui, méchants, c'est sûr, mais... Elle a une voix très grave, très belle. Elle leur disait, qu'est-ce que c'est quand on... Est-ce que les gens étaient armés? Les gens qui sont morts, est-ce qu'ils étaient armés? Non, ils n'étaient pas armés. Alors, comment on appelle quelqu'un qui tire sur un homme qui n'est pas armé? Comment on appelle? Lâche, tu vois, l'accent circonflexe a inondé la pièce. Tu disais, lâche. Et elle a écrit lâche. Alors, lâche avec un S, des hommes S, lâche S au pluriel. C'était un cours de français et ils ont fait un article de journal.
He says calm, but
calm.
How did he learn?
Écrit comme téléphone.
Tu peux écrire des SMS en français?
Oui.
Tu peux écrire des SMS en français?
Non, c'est pour internet.
Ah, il a écrit sur internet. Oui. You understand? He says, I can write French a little. Calm.
Au fur et à mesure que les élèves acquièrent le français, ils vont pouvoir assister à d'autres cours jugés indispensables.
Je pense que j'ai manqué une cours, donc j'ai allé partout dans toutes les cours quand j'avais le temps.
Histoire de France, analyse de la société, culture générale et séminaire, par exemple sur la santé et le système de soins, sur le corps, sur le droit, sur les religions. Toutes choses qui, sous la forme d'une transmission accélérée, leur permettront de trouver leur place.
Comment je pourrais qualifier le type d'enseignement ? J'essaye de familiariser les élèves à l'actualité.
Étienne, enseignant en analyse de la société.
Autrement dit, aux informations qu'ils ont par les journaux, notamment les journaux gratuits qu'ils ont sous la main, la radio, la télévision, toutes les modes d'information qu'ils auront du fait de leur séjour en France. J'essaye de leur expliquer, leur traduire en quelque sorte l'actualité pour qu'ils aient une meilleure compréhension, qu'ils soient en phase avec la société française, pour expliquer pourquoi il y a tel débat qui traverse la société. J'essaye pas du tout de leur expliquer ce que je pense ou ce qu'il faut penser, mais faire une sorte de décryptage de la manière dont les Français, du fait de leur culture, du fait de leur éducation, du fait de beaucoup, beaucoup de choses, ont à peu près cette perception-là. Et parfois, il y a une interrogation, une stupéfaction un peu polie qui n'est pas toujours facile à dépasser. Et déjà, je vois qu'ils prennent ce que je leur dis comme ça vient, mais ils n'en sont pas forcément persuadés. Mais j'insiste souvent pour leur expliquer que quoi qu'on fasse, voilà, c'est comme ça qu'en France sont perçues les choses. Il se passe quelque chose depuis 4 ans. Tous les mardis matins, quelqu'un m'apporte un café. Les gens m'appellent le professeur. Les élèves ont des égards par un regard, par une parole. Quand ils se lèvent, quand on entre dans la pièce, des choses toutes simples qui ne sont pas du tout de l'ordre du règlement de l'école. C'est absolument pas ça. Je ne sais pas si à l'école, Pierre Clavel est demandé qu'on se lève quand le professeur entre ou quand le professeur arrive. Je n'en sais rien, mais leur propre culture, leur propre bonne manière, leur propre manière, tout simplement, sont présentes dans l'école et ça donne une atmosphère assez à part. Ça a changé largement ma perception des choses. Je dirais presque qu'en venant à Pierre Claver, je ne savais pas bien pourquoi je venais. Et j'ai compris que c'était aussi pour résoudre l'espèce d'impasse dans laquelle j'étais, que je n'arrivais pas à résoudre, entre la bienveillance qu'on essaye d'avoir vis-à-vis des gens, quels qu'ils soient, et puis l'interrogation qu'on a en entendant tous les phénomènes migratoires, la question des migrants, la question des réfugiés qui partent de Syrie, qui passent par la Turquie, enfin des phénomènes considérables, côté desquels on se sent un peu noyé. Et donc entre cette espèce de grande interrogation de savoir ce qui se passait, que c'était probablement un phénomène de civilisation qu'on était en train de vivre, et puis la bienveillance naturelle qu'on essaie d'avoir vis-à-vis des personnes, parfois j'étais quand même dans un sorte de paradoxe que j'ai voulu résoudre tout simplement en allant rencontrer des gens et pas en restant à des questionnements de type intellectuel. Et le fait d'en parler ou d'observer des visus, en quelque sorte, par les personnes qu'on rencontrait, qui étaient les acteurs de ces phénomènes dont on entend parler à longueur de temps, qui évidemment interrogent notre société, ça m'a, d'une certaine manière, libéré. Je n'ai pas résolu les questions. Hein. Comme je dis toujours, à l'école, on rencontre des gens sympathiques et des gens qui ne le sont pas. On rencontre des gens ouverts, des gens fermés, des gens passionnants et des gens décevants. Donc c'est l'humanité telle qu'elle est. Mais le fait de vivre ça et d'aborder parfois le sujet avec eux, même si je suis assez prudent parce qu'il y a sûrement des blessures, c'est des sujets à vif, ça m'a beaucoup intéressé, instruit, m'a permis d'enrichir mon jugement, de le nuancer. Je me souviens très bien en abordant une actualité où les jeunes, tout d'un coup, sont mis à raconter leur propre parcours à travers la Turquie, à travers l'Europe de l'Est, et tout d'un coup, des récits qui étaient ceux des journaux jusqu'alors, vraiment tout d'un coup, prenaient chair à travers des personnes que j'avais appris à connaître, à découvrir et à apprécier pour beaucoup d'entre elles.
Pierre Claver est, pour cette raison, une occasion de rencontre existentielle, qui fait autant de bien aux réfugiés qu'à ceux qui viennent travailler à Pierre Claver et qui ne sont pas des réfugiés. Parce que les deux se rendent compte que, si c'est un homme, quoi, hein, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on nous avait dit.
Tu sais, je suis là, à cause de mes articles.
Beaucoup de censure, j'en avais marre.
Pour défendre ma famille, j'ai quitté mon pays avec mes enfants.
Je travaillais pour l'armée américaine. Les talibans me cherchaient pour moi.
Je suis arrivée à 14 ans. Ce n'était pas mon choix. Ma famille avait des problèmes.
En fait, problème de religion.
Je rêvais et je rêve encore pour mon enfant de vivre dans un pays démocratique. Mais dans mon pays, c'est un régime total.
Je cherche un endroit pour vivre.
By common tribe, who in your merry, merry month of May, who by various slow decay, and who shall I say is calling?
Il y a l'histoire et les valeurs de ce pays qui est très important de savoir parce que demain, je dois devenir français.
Carabert.
Je ne suis pas touriste qui avait juste les passages ici. Donc, je suis potentiellement français demain quand je serai naturalisé. Donc, c'est très important pour pouvoir savoir, apprendre toutes les valeurs, la langue, l'histoire, la géographie, les monuments historiques, tout. Concernant la France.
C'est où ton cours, c'est là?
Non, c'est en général c'est au-dessus, mais aujourd'hui c'est un petit cours parce que c'est juste l'introduction méthodologique. On explique.
François, enseignant en histoire.
Tu vois, avec nos ancêtres les Gaulois, avec les enfin, non, pas nos ancêtres les Gaulois parce que c'est politiquement correct. Non, je démarre pratiquement avec l'apparition de l'homme sur la Terre.
D'accord.
Surtout, il faut leur rappeler qu'ils non seulement peuvent, mais doivent poser des questions.
Donc, il n'est pas là, Tarek.
Daniel, il est à Sciences Po. Oui. Il dit qu'il brille de mille feux. Avec
Parce que l'an dernier, nous avons véritablement des conversations.
Mais là, tu as son père.
J'ai son père. Ok.
Donc tu vas pouvoir voir ce qui a été transmis du père au fils.
Du fils au père.
Et du fils au père.
Fils au père. Alors, je vais vous parler de l'histoire. Que va être le cours d'histoire et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Par exemple, je vous parlerai longuement de la Révolution française.
C'est l'occasion d'une double découverte. D'une découverte par celui qui enseigne, de ce qu'il aimerait que son pays soit, ce qu'il fait passer à travers l'enseignement de l'histoire, et une découverte aussi de la part de ceux qui y sont enseignés, de ceux qui apprennent l'histoire de France, de ce que, après tout, leur histoire nationale est tout aussi complexe que l'histoire de France. Et cela, dans la plupart des cas, on ne leur avait jamais dit.
Mais le premier but du cours, le premier but, c'est que vous voyez ce que les Français disent quand ils parlent de leur histoire. De temps en temps, vous promenez dans la rue, vous voyez, surtout dans ce quartier où il y a plein de ministères, vous voyez une voiture avec des motards devant et des gyrophares. C'est... Enfin, vous voyez le... Et dedans, il y a un ministre. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ministre, d'accord? Et les Français n'aiment pas du tout ça. Quand les types passent avec les motards et le ministre, etc., etc. Et de temps en temps, sur le trottoir, on entend des gens qui disent « Ah ben ça, c'est vraiment l'Ancien Régime ». L'Ancien Régime, c'est la France avant la Révolution. La France de 1789, n'est-ce pas? Les Français se servent sans arrêt de leur histoire pour parler de ce qui leur arrive. D'accord.
Je crois que ce qu'on fait passer, en effet, ça n'est pas simplement le contenu de l'enseignement historique. Plusieurs choses passent, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, c'est plutôt agréable de sentir qu'elles passent. C'est d'abord cette idée que étudier l'histoire, c'est d'une certaine manière s'éduquer soi-même en permanence à la raison et à la liberté. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis aussi d'autres choses passent. Par exemple, l'amour passe. J'essaye d'enseigner l'histoire. Il y a des figures dans l'histoire qui sont des figures que j'aime. J'aime Honoré d'Estienne d'Orves, Blaise Pascal. Je les aime profondément. Et l'idée exprimer cet amour pour des étrangers, leur faire partager, est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il s'agit quand même de leur montrer qu'ils ne sont pas venus ici seulement pour tomber dans un pays froid, plat, bureaucratique, qui leur donne ou qui ne leur donne pas des papiers, mais dans un pays qui a, au fond, une grande profondeur, comme eux-mêmes. Je suis frappé du fait que, quand on parle de ce qu'on aime, d'Estienne d'Orves, le général de Gaulle, Blaise Pascal ou Louise Michel, chacun selon ses caractéristiques, immédiatement, les réfugiés vous parlent de ce qu'ils ont aimé dans leur pays. Et cette fois-ci, de manière absolument non propagandique, de manière absolument instinctive. Et c'est là où se fait un échange qui est véritablement un échange de l'amour, et dont l'histoire est au fond le prétexte. Qu'est-ce que j'essaye de transmettre? J'essaye au fond d'oublier tout ce que mon pays a de douloureux ou de pénible. Je crois que chaque pays est douloureux et pénible pour celui qui y habite, en réalité. Et ce que j'essaye de transmettre, en réalité, c'est un amour absolument gai, bienveillant et déraisonnable, de ce pays qui s'appelle la France et qui est, au fond, le mien. Quand on dit « ce pays est le mien », ça ne veut pas dire que tout le monde habite le même. Je suis convaincu à certains égards que je suis en partie le seul à habiter cette France qui est la mienne.
Il y a une disparition massive de Adolf.
Ah, c'est le père et le fils.
Oui, mon deuxième fils. D'accord. Mon premier fils, deuxième fils.
Ah, d'accord.
Ma femme
vous
et
êtes
moi.
Là. Donc c'est toute la famille.
Moi, je suis comme vous, journaliste.
Il va y encore y avoir une concentration d'Ariopval massive. Au cours d'histoire, c'était incroyable. Il y avait la mère, le père,
le cours d'histoire, c'était
10 minutes.
Vous allez où, les Lalia 2?
Vous allez en D? Ça, je pense que...
Non, elle est
encore 11 minutes.
Ah oui, prends vite une place.
Trop de précision. 11 minutes.
Trop de précision, nuit.
Je suis désolée.
Tiens, d'ailleurs, bonjour, ça me donne monsieur. Une idée pour la présentation. Trop de précision en poésie, nuit.
Mon fils, tu le connais?
Mais oui, je connais.
Bernd, enseignant en poésie.
Merci, l'ami.
Bon, ben c'est la foule. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur que je ne connais pas. Beaucoup de visages nouveaux, beaucoup. J'en suis ravi, comme je suis ravi de retrouver ceux que je connais également. La question se pose finalement de la raison de ce cours de poésie. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec de la poésie? Pourquoi faire de la poésie? À quoi ça sert un cours de poésie? Ça n'existe pas un cours de poésie, ça sert à rien, mais un cours sur les poèmes, sur ce que veut dire un poème, qu'est-ce que c'est qu'un poème, d'où ça vient, et pourquoi vous en parlez, ce sont des questions qui méritent d'être développées. Vous me dites si je vais trop vite, si vous comprenez bien les mots, il y a des choses importantes à comprendre, d'autres qui sont annexes. Indépendamment de la lecture de vos cours de grammaire, des nécessités quotidiennes, du langage parlé, il y a aussi ce langage écrit, très façonné, très construit, qui s'appelle poésie. À mon sens, la poésie, c'est ce qui permet d'entrer très rapidement, mais dans autre chose que la langue. Et c'est cela qui s'agirait de déterminer. Entrer dans quoi, finalement? À mon avis, c'est entrer dans l'esprit de la langue, mais ça ne suffit pas non plus. Dans l'âme de la langue, je ne sais pas, on pourrait proposer beaucoup de choses. Dans l'esprit d'un peuple, oui, probablement, mais également de comprendre ce qui, dans une langue qui s'appelle le français, ce qui fait réagir les Français, ce autour de quoi les Français se retrouvent.
C'est l'âme.
C'est l'âme que la mer amancie sur la grève,
où les longs cheveux verts des sombres goémons,
où le long cheveux verts de sombres goémons
tremble dans l'eau moirée avec l'ombre des monts.
Tremble.
Moi aussi je riais de tout ça. C'est mes gestes.
Je tremble dans le moiré avec l'ombre des morts.
Je me souviens de son sondage, il est inscrit ici. Je crois même qu'il a été inscrit.
Quand on demande aux élèves ce que Pierre Claver représente pour eux, et comme en écho à ce qui leur a été proposé, à savoir d'entrer dans une maison dont ils seront membres à part entière, le mot « famille » est celui qui revient le plus souvent. Comme dans toute famille, il y a des conflits et même chaque jour.
Regarde, tu as ici une brebis égarée.
Les problèmes sont d'ordre intellectuel et d'ordre comportemental, et certains à l'intersection des deux.
Je connais son visage.
Ils se traitent souvent sur le champ, dans les couloirs.
On lui a donné rendez-vous pour le premier jour, il n'est jamais venu. Il dit qu'il a été malade. Et je pense qu'il doit être dans ta classe.
Le plus préoccupant, c'est le sentiment qu'ont quasiment tous les demandeurs d'asile d'avoir droit à un certain nombre de choses.
Ils perçoivent les pays européens comme des dispositifs de distribution de droits différents.
Ayam.
Ça, c'est assez compliqué parce que quand ils arrivent à Pierre Claver, encore une fois, ils ont un comportement quasi métaphorique de celui qu'ils auront en France. C'est-à-dire, ils arrivent en attendant leurs droits. Donc, j'ai droit à un cahier, j'ai droit à un livre, j'ai droit à un autre crayon. je ne viens pas en cours quand je suis malade, fatigué, quand j'ai pas envie, etc. Et je ne donne absolument rien en échange. Et c'est en fait assez difficile de dire que nous ne sentons pas ça, nous, comme un comportement très digne. C'est pas digne de réclamer en permanence des choses, ça n'est pas digne de ne pas respecter les lois communes, et ça n'est pas digne non plus d'un adulte, car Pierre Claver est quand même une école d'adultes. Et donc c'est très différent. Et donc ce qui est vraiment interdit à Pierre Claver, c'est de se conduire comme un enfant.
Dis-lui d'éteindre. Put it off. Non, ne me viens pas après dire j'ai pas compris. Hein. Éteins ton téléphone.
Et j'ai bien peur que... Ouais. En fait, en France, nous avons tendance à donner le sentiment que tout est justement à disposition, tous ces droits.
Je vais te dire ça tous les matins.
Personne n'en explique les origines de ce droit, à combien il est précieux. Et personne n'explique non plus le pacte qui existe. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué à un demandeur d'asile comment ça fonctionne, d'abord, il est fasciné par le merveilleux système d'équité et de solidarité qui est en France, qui existe en France, et il est très prompt à vouloir y contribuer. Parce que qui ne veut pas être digne ? Qui ne veut pas ? Mais il ne sait pas que c'est une question de dignité. Et donc, ce comportement qu'ils auront en France, ils l'ont déjà à Pierre Claver.
Je prends d'abord dans ta classe. Je préfère faire comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il monte dans une classe, il est fort, plutôt qu'il ne redescende, tu vois. Voilà. C'est mieux comme ça.
C'était pour voir si j'ai compris l'intérêt du Becherel. Comme personne ne dit je veux un Becherel, ça veut dire que j'ai complètement raté ma leçon. J'ai dit que le Becherel, c'était l'évangile.
Personne ne veut un Becherel. Est-il nécessaire de préciser que Pierre Claver est une association laïque ? Ce qui ne signifie pas que la religion soit absente.
Vous savez, un demandeur d'asile et un réfugié, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de choses derrière lui. Il a laissé sa famille, sa maison, son ciel, ses habitudes. Il n'a quasiment plus personne pour partager ses souvenirs d'enfance. Il y a peu de choses auxquelles il peut se raccrocher comme étant son pays. Et la religion en est une. Nous avions une religion ici, la nôtre, celle de Pierre Claver, et qui était qu'il n'est pas question, il n'est pas question que quelqu'un, qui que ce soit, soit blessé, même de la manière la plus infime. Et donc tout ce qui peut conduire quelqu'un à se sentir exclu, rejeté, blessé d'une quelconque manière est strictement interdit. Ce qui pourrait blesser une seule personne est interdit à tous. Voilà, ça c'est notre religion. Maintenant, ça n'a pas marché longtemps. Petit à petit, on a accueilli des personnes qui demandaient de sortir des classes pour prier ou qui demandaient de manière extrêmement manifester, ostentatoire, si ce que nous mangions était ou non permis. C'est très désagréable. Et donc nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons commencé un cours qui s'appelait « La religion des autres ». Et donc nous n'avons pas en fait interdit la religion, nous avons invité tout le monde à connaître celle des autres, qu'il y avait tout un voyage à faire, tout un chemin à faire pour comprendre le bénéfice qu'il y avait à ne pas imposer sa religion aux autres.
Fatemet, tu penses qu'on a tous une morale ou pas ?
Je pense que religion, c'est autre chose, et morale, c'est autre chose. Pas juste religion qui a morale.
On pourrait trouver des choses humaines et être ensemble. Donc, et je crois que des fables de La Fontaine, ils sont compréhensibles pour tout le monde.
Salade aux tomates.
Il est goulayon, il a de la cuisse.
L'aile ou la cuisse. Ah oui, on le montre ce soir au ciné-club. Dis donc, et le chasse-pine, c'est bien aussi. Hein.
Bah, c'est sympa, mais c'est l'héritage, non. C'est modeste. Hein.
Du lundi au vendredi, toutes les disciplines se succèdent selon un emploi du temps rigoureux, tandis que les cours s'interrompent pendant le week-end et les vacances scolaires.
On se retrouve sur les
et certains élèves ne prennent jamais de vacances. Ils courent tous les samedis matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, sous les couleurs de Pierre Clavert. Et à leur retour, un copieux déjeuner les attend. Là, ils n'ont pas besoin de parler français pour être les meilleurs. Et sans que l'on sache très bien pourquoi, mais c'est un fait, ce sont eux qui ensuite s'intègrent le mieux.
La course, c'est Pierre Clavert hors les murs, finalement. Et le regard que les gens ont sur les coureurs est sans doute très différent du regard qu'ils peuvent ressentir quand ils sont soit tout seuls, soit en dehors de la course. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi.
Alban, organisateur de la course.
On s'est dit que quand ils sont seuls, quand ils sont dans les transports en commun, il peut y avoir un regard particulier qui est porté sur eux, une forme de racisme, peut-être de crainte. Et quand on court ensemble, on sent que le regard qui est porté sur le groupe, alors rien, c'est un groupe, déjà il y a un côté un peu inhabituel, et puis il y a un côté assez joyeux, assez festif là-dedans, et on sent que le regard des gens sur nous, je dis sur nous parce que je suis un peu comme Mathieu, eh bien il est empreint de sourire, il est peut-être d'admiration, parce que ça court vite quand même. Il y a de sacrés coureurs dans l'équipe. Quand on a couru les 10 km de l'équipe en mai dernier, sur 157 équipes, on classe Pierre Clavert numéro 2. Les 10 premières équipes, c'est quasiment des équipes de pros. Pour les coureurs, c'est énorme. Alors pour moi, je vous entends même pas.
Si vous parlez en dari, en farsi.
Je pense que ça leur permet de se dire, voilà, on a une place.
Ouais, je comprends pas.
On a une place. Mais.
Je parle anglais, italien, allemand et
on est ici de gré ou de force, mais on a une place, on peut y être chez nous.
Je parle pas italien, mais...
Donc oui, il y a ça. Et puis il n'y a pas que les élèves. Il faut dire aussi que dans l'équipe de course à pied, il y a les anciens. Et c'est là où on a quelque chose de l'ordre de la transmission. Moi finalement, je suis quoi? Je suis juste un organisateur de l'affaire. Et donc ça crée une espèce d'équipe un peu canal historique. C'est vraiment ça. Et ça crée le cœur de l'équipe, l'espèce de noyau dur autour duquel les nouveaux s'agrègent et puis finissent par rentrer dans ce noyau dur et deviennent le noyau dur à leur tour et puis accueillent les nouveaux. Et je me rappelle comme ça d'une course que j'avais appelée moi la course de la rose. On terminait par le jardin du Luxembourg et puis on trouve dans le bassin du jardin du Luxembourg, on trouve un bouquet de fleurs, sans doute... délaissé par un jeune enamouré, conduit par je ne sais qui, et on récupère le bouquet, et je distribue à chacun des coureurs une rose, et sans qu'on ait rien dit du tout, au fur et à mesure, en remontant notamment par le boulevard Saint-Germain, chaque coureur a offert sa rose à une jeune femme qu'il a croisée comme ça. Et ça a suscité plein de sourires, ça a suscité des applaudissements, j'ai appelé ça la course de la rose. Voilà.
Et je crois qu'à la fin, ce qu'on leur dit, et ils sortent de ça, de Clavert en le comprenant, c'est après avoir été bassiné avec ce que c'est que la France, comment on vit en France, comment on parle en France, comment on se bat en France, et ce qui compte en France, etc. La conclusion de ça, c'est quand même, et c'est pour ça qu'il faut être soi-même, avec votre extraordinaire grâce, avec tout ce que vous savez que les Français ne savent pas, votre manière de se conduire qui peut être si tendre, si humaine, si chaude, si chaleureuse, vous avez conservé des choses que la France a oubliées, que vous pouvez venir leur rappeler. Vous avez gardé une aisance dans la vie, devant la mort, devant la vieillesse, absolument extraordinaire et que nous perdons en France. Regardez autour de vous, regardez la solitude et les mélancolies.
Allez,
vous êtes bourré d'une énergie que nous avions peut-être en France, mais que nous avons petit à petit perdue. Amenez-nous ça, amenez tout cette gaieté, amenez tout, vos recettes, vos souvenirs, vos histoires, vos légendes, vos visages. Tout ce que vous êtes, soyez-le entièrement, n'effacez rien, mais trouvez votre place dans le canevas français.
C'est ça, c'est ce que c'est. Ça s'appelle le Panthéon. Panthéon, c'est là qu'on a enterré les très grandes personnes de France, hommes et femmes, qui ont compté pour la France, qui sont enterrés ici. Attendez un peu.
C'était la transmission dans tous ses états, l'école Pierre Clavert, un laboratoire de savoir-vivre. Une émission de Caroline Eliachef, réalisation Manouchak Fachaï. Remerciements chaleureux aux enseignants et aux élèves de Pierre Clavert.
Shall I say,
Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Archivina, Élodie Royer. Collaboration, Céline Rosa. Recherche musicale, Romain Couturier. Prise de son, François Rivalan, Georges Thau. Mixage, Manuel Couturier.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner à l'école, bibliographie, lien, nous podcaster pour préparer les cours ou nous réécouter avant les examens, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, troisième étape, artistes et artisans, la passion de transmettre.